France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1988, la linguiste Agnès Pierron consacrait dans l'émission Grand Angle un documentaire à la fête foraine. Une fête foraine qui, concurrencée par les parcs d'attractions, cherchait à la fin du XXe siècle à reconquérir le centre des villes où, jugée trop bruyante et envahissante, elle n'était pas toujours la bienvenue. Une fête foraine qui n'était plus en somme ce qu'elle avait été. Mais comme on va l'entendre, condamnée toujours à renouveler ses attractions pour les accorder au goût, aux mœurs et aux innovations techniques du moment, la fête foraine n'a, au fond, jamais cessé de n'être plus ce qu'elle avait été. Avec cependant les constantes que sont les règles et le savoir-faire d'un métier que perpétuent les familles foraines de génération en génération. Mais qu'est-ce au juste qu'une fête foraine ? Que viennent y chercher les jeunes et les moins jeunes qui s'y laissent tenter par le boniment du banquiste? Est-elle un lieu de transgression où le voyeurisme tient une grande place, comme cela a été avancé dans l'émission qui va suivre? Écoutons ce qu'en disait Zeev Gourarier, alors conservateur au Musée national des arts et traditions populaires, et ce qu'en disaient des forains, les femmes tout particulièrement. Et écoutons aussi celles qui n'appartenaient pas à la famille foraine, mais qui étaient les effeuilleuses des baraques de striptease de la fête de Pigalle. Grand Angle, la fête foraine, première diffusion le 31 décembre 1988 sur France Culture.
Vous savez, je vais vous expliquer. Lorsqu'on est forain, on fait du touche à tout. On peut très bien tenir des auto-tamponneuses, comme d'un seul coup se retrouver avec une petite baraque de frites. Ça, c'est, on n'est pas perdu. D'un seul coup, on me dirait, tiens, il y a la dame là-bas avec ses, je sais pas, ses auto-tamponneuses, son squatter qui est en panne. Est-ce que tu peux y aller? Bon, bah, j'irai. Ça y est, tout de suite, on est dans le bain. Tout de suite, on sait. On fait du touche à tout les métiers qui rapportent à notre profession.
Immédiatement, allez, prenez place, public, ça recommence. Prenez vos places, prenez vos tickets, nous recommençons pour une séance nouvelle.
Grand angle.
À l'avancée. Vous voulez pas, il faut avancer.
La fête foraine.
C'est pas la peine. Allez, prenez place, ça recommence, oui, allez-y.
Une émission proposée par Agnès Pierron.
Prenez place, ça va recommencer. Allez, c'est vite avancé.
Vous tenez là un stand avec des pâtes. Et puis dans d'autres fêtes, vous tenez une loterie, je crois.
Voilà.
Et votre père avait le mur de la mort.
Mon père avait un mur de la mort.
Alors qu'est-ce que c'était ?
Eh bien, c'est une sphère, un tonneau plutôt, en bois. Et alors, à l'intérieur, vous rouliez avec une moto, vous commenciez à rouler sur un gradin. Et d'un seul coup, vous à la verticale. Et bon, bah, mon père a fait ça toute sa vie. Moi, je suis née là-dedans. Quand j'étais petite fille, je suis allée d'école en école. Mes parents faisaient toute la France. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je me suis mariée avec un forain qui faisait que Paris. Et je suis devenue une foraine de Paris. Mais enfin, je crois que la fête foraine, c'est pour les enfants de forains, c'est toute notre vie. Je me vois pas faire autre chose que la fête foraine, que le métier forain.
Et pourtant, là, vous êtes, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en décembre, vous êtes au froid, et puis vous attendez, il pleut, il y a des grèves, il n'y a pas grand monde, et ça vous plaît quand même.
Ben, c'est-à-dire, c'est notre vie, c'est notre métier. Bon, bien sûr, les grèves, tout ça, ça ne nous arrange pas. Question nos affaires, question commerce, bien sûr, c'est très très dur en ce moment. Les journées sont longues, vous savez, puisque, bon, ben là, tous les soirs, en ce moment, nous sommes à la fête de Pigalle, Montmartre. Nous sommes ouverts tous les jours jusqu'à minuit et demi. Et bon, ben, les heures de présence, il faut les faire. Il faut faire bonne figure malgré le mauvais temps qu'il peut y avoir. Mais enfin, voilà, ça, c'est notre vie.
Tandis que des attractions disparaissent, les forains sont reconnus officiellement. En effet, depuis le début des années 80, ils dépendent du ministère de la Culture et de la Communication. Il est vrai que la fête et le théâtre, la fête et le spectacle ont partie liée. Aussi anodine qu'elle puisse paraître, elle a vu les débuts du cinéma, de la photographie, du disque. C'est grâce à elle qu'ils ont été testés et diffusés. À l'heure qu'il est, les forains se heurtent à des difficultés d'exploitation. Par exemple, les ménageries ne sont plus rentables. Et surtout, les forains revendiquent un territoire. Eux-mêmes, pendant un temps, se sont appelés les guerriers. Il s'agit d'investir du terrain au centre des villes. À Paris, la fête des Tuileries est une conquête réussie. Et puis, les forains doivent faire face à la concurrence des parcs d'attractions. Pourtant, même si les jeunes exploitants ont tendance à se tourner vers les grandes machines, il n'empêche que leurs parents et avec eux toute une partie du public restent attachés à des divertissements qui se situent plutôt du côté de la nostalgie de la grande époque de la foire, les années 1900. Mais à la foire du trône au printemps et surtout à Pigalle en hiver, ce n'est pas seulement une nostalgie. On peut retrouver les bancs et les barades, les baraques et leurs peintures avec toute une série de numéros que notre société du spectacle reconnaît et fréquente.
La fête foraine, je crois que dans tous ses aspects, à mes yeux, c'est le lieu de la transgression. Je crois qu'il faut la comprendre comme un lieu de transgression. À mon avis, on ne s'amuse véritablement que lorsqu'on s'est un petit peu déboutonné, entre guillemets, c'est-à-dire lorsqu'on a fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Donc la fête foraine va s'affirmer comme un espace différent, et c'est pour ça que, disons, un manège isolé ou une auto-tamponneuse isolée dans la ville ne sont pas véritablement une fête foraine, et si vous interrogez les forains, ils vous diront qu'ils n'aiment pas, en général, être isolés dans la ville. Il faut qu'il y ait 3 ou 4 métiers avec du bruit, de la lumière, une sensation de vertige qui va vous amener à faire des choses que vous ne faites pas d'ordinaire. Il y a encore 30 ou 40 ans, la fête foraine n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement des manèges, c'est-à-dire toutes sortes de métiers qui tournent, d'attractions qui tournent sur elles-mêmes. C'était un lieu où on trouvait une grande diversité de spectacles, proprement dit. On allait effectivement voir du cinéma, et pour attirer la foule sur chaque attraction, il y avait ce qu'on appelle une parade, c'est-à-dire que les forains se mettaient à dire ce qu'ils appellent un boniment, et ils essayaient d'accrocher la foule qu'ils appelaient les pantres. Et la foule se massait devant chaque attraction, et chacun essayait d'ailleurs de parler le plus fort possible, d'avoir la musique la plus forte possible, pour attirer le plus de monde possible. Alors c'est comme ça qu'effectivement il y avait, au début du siècle, des orchestres, et particulièrement, symbolique de ces parades foraines, la grosse caisse. Grosse caisse qui était actionnée par un lapin. Et vous avez beaucoup de cul de lampe encore d'ouvrages un peu sur la fête ou en édition, ça m'amuse beaucoup. Vous voyez un lapin qui joue du tambour. Et cette image du lapin qui joue du tambour vient de très loin. C'était eux qui étaient utilisés comme animaux savants pour actionner la batterie. Donc ça s'est perdu, je crois, déjà assez vite, il me semble, dès le début du siècle. Mais on a continué à avoir de grands orchestres avec des cuivres, des tambours, pour jouer de la musique et attirer la foule devant les métiers. Comme cela coûtait fort cher, on a commencé à fabriquer des musiques mécaniques.
Parce que sur les couples qui vont beaucoup sur les fêtes foraines, à deux sur la grande roue.
Bien sûr, on va à deux, mais ce ne sont pas les couples mariés spécialement qui vont le soir sur les fêtes foraines aujourd'hui. La fête foraine est devenue à mes yeux, et je crois, aux yeux aussi un petit peu des forains, le lieu privilégié du premier baiser. C'est l'endroit où même, à mon avis, les jeunes adolescents, avant même d'aller en boîte, font leur première expérience amoureuse. C'est quel endroit plus rêvé pour un premier contact amoureux qu'une chenille, par exemple, qui se referme sur vous.
Oui, il y a les conditions d'isolement suffisantes.
Et vous met dans son petit cocon qui monte et qui descend avec la sensation vertigineuse en plus de ces métiers qui n'arrêtent pas de tourner, des lumières et du bruit. qui vous permettent effectivement cette transgression, cette première transgression.
Ah oui, puis elle l'a dans l'âme, elle a son métier dans l'âme, elle aime son métier.
Et ma fille,
elle aime le métier forain, elle aime la fête. S'il n'y a pas la fête, elle ne pourrait pas vivre.
C'est toute ma vie.
Voilà,
ça.
C'est sa vie.
Et j'ai une fille qui a 18 ans qui vient de se marier, elle s'est mariée aussi avec un petit forain.
Voilà.
Ça, je crois que je me serais pas vu faire autre chose que le métier forain. Ça, c'est. Je suis vraiment une foraine.
Il n'y a que du sang. Nous allons commencer le spectacle et je vous présente cette fois-ci, je vous transporte en Suède avec Zika. Messieurs, ne pleurez pas un petit bravo entre chaque numéro. Ça encourage les artistes et puis ça met un petit peu d'ambiance. Et si vous avez peur de frapper sur les mains, frapper sur la cuillère des voisins, ça n'a pas d'importance. Vous êtes Zika.
Il faut savoir qu'il y a des parades devant tout. Les Guérin font une parade pour leur spectacle de marionnettes à Bordeaux. Jackson faisait encore l'année dernière une parade de catch pour son spectacle de catch sur le trône. Maintenant, vous avez aussi des métiers dits à parade, bien que ce ne soit plus tout à fait des parades. Le mur de la mort. Il circule en France 3 ou 4 murs de la mort. Les murs de la mort, ce sont des motos ou des autos qui tournent dans un cylindre. Les murs de la mort sont des métiers à parade. C'est-à-dire que vous avez des numéros de moto sur estrade avant. Ce sont des entresorts aussi. Vous avez également, tout catch, toute baraque de lutte fonctionne avec une parade. Un mur de la mort fonctionne avec une parade. Les Miss Gorilla fonctionnent aussi avec des parades. Hein. Alors, Miss Gorilla est une attraction qu'on tourne 4 ou 5 en France, je crois. Et ce sont alors, elles, tout à fait des attractions dans la tradition de ce qu'on pouvait trouver au début du siècle.
C'est-à-dire
que vous avez une belle jeune femme avec un spectacle de danse devant le métier avant le spectacle. L'entresort s'ouvre et vous rentrez dans la baraque. Et à l'intérieur de la baraque, vous voyez cette jeune femme dans une obscurité, avec un éclairage violent sur la jeune femme. Vous la voyez se transformer derrière des barreaux en gorille. Et à la fin du spectacle, vous avez une sensation forte assurée. Et voilà, mais ça, c'est tout à fait la tradition des métiers à illusion, c'est un peu comme ça qu'a été utilisé le cinéma dans ses débuts, des métiers à illusion du début du siècle. Et vous avez donc là une parade aussi. Donc vous voyez qu'il existe encore des métiers à parade, et pour peu qu'on trouve après Miss Gorilla une ou deux autres idées de numéros qui peuvent se faire assez vite, vous voyez. Est très spectaculaire, il y aura une parade pour attirer la foule dans ces métiers.
Et qu'est-ce que l'entresort ?
Alors l'entresort, ça vient du mot entrer et sortir, et c'est un type de métier qui se labore, à mon avis, vraiment dans la forme qu'on lui connaît, il y a un siècle et demi. C'est un type d'attraction qui est plutôt attribué précisément aux tziganes. Alors celui-là, il serait plutôt tenu effectivement par des tziganes. Ce type d'attraction, donc en fait, il y a une parade qui est destinée à attirer la foule. On considère que la foule est bien chauffée par la parade, on ouvre au niveau du sol, c'est toujours au niveau du sol une entrée, et on annonce le coup de casque. Et on se débrouille en général pour faire entrer les gens par paquet, de façon à donner l'impression qu'il y a toujours beaucoup de monde qui veut rentrer. Les gens rentrent par paquet, l'attraction et l'entrée est toujours au niveau du sol, vous observerez ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effort à fournir pour rentrer dans l'attraction. Simplement une petite barge qu'on soulève. Ça, c'est la règle de tous les entresorts. Et entre ces deux entrées, vous avez des planches, ce qu'on appelle une banque, sur laquelle les paradistes jouent. Voilà. On appelle les paradistes également des banquistes, en raison du fait qu'ils jouent sur ces
bancs.
Oui, les banquistes s'opposent aux palqueurs, dans la mesure où les palqueurs, eux, travaillent au palque, c'est-à-dire au sol.
Alors le divio,
le divio, c'est le genre Miss Gorilla un peu. Le divio, c'était l'homme sauvage, l'homme des bois, la grosse brute qu'on montrait donc Sur les fêtes foraines, on badigeonnait un enfant en général. C'est pour ça que le Didio était souvent un jeune de 15-16 ans, ou plus jeune. On le badigeonnait de tout de noir. Et on disait, avez-vous vu cet homme des bois? En général, le forain qui présentait cette attraction était vêtu en explorateur ou en dompteur. Et vous montrait cette... il mangeait des rats vivants devant le public, si possible en faisant un maximum, poussait des cris horribles. Bon, chaque Divio, je pense, avait sa personnalité. Et on le présentait, ce qui était vraiment terrible, derrière des barreaux, plutôt. Mais le Divio était présenté tel
comme
que comme homme sauvage.
Alors, donc, racontez-nous la rivière.
Donc, pareil, parade, etc. Et peinture, très important. Peinture sur la baraque. Alors là, j'ai interrogé des peintres en peinture foraine. La peinture d'une baraque dite d'entresort, vous voyez ce que c'est?
Ah oui, on voit toujours les baraques de striptease forain, d'ailleurs, sont peintes.
Oui, tout est peint. Et cette peinture doit répondre à certaines règles. La peinture d'entresort fonctionne de la façon suivante. Il faut que ça soit très spectaculaire, avec beaucoup de données scientifiques, mais qu'on comprenne pas grand-chose. Bon, il y avait par exemple une baraque présentant une attraction, je pense, probablement des momies. Alors, il y avait le nom de Champollion, les dimensions, 50 cm, 20 cm, 30 cm, quelques hiéroglyphes. On ne comprenait pas, mais il y avait beaucoup de choses à lire. Mais pour comprendre, il fallait rentrer à l'intérieur.
C'était une parade réussie.
C'était la peinture joue le rôle de parade.
Voilà.
Vous avez un autre type de peinture qui est le Palais du Rire. Alors le Palais du Rire est une attraction qui est arrivée plus récemment, je crois, il y a 20 ou 30 ans, hein, qui est basée sur l'idée du parcours accidenté. Un peu comme le train fantôme. Mais le Palais du Rire, ça doit être rigolo. C'est ça que m'expliquait le peintre. Pour une façade de Palais du Rire, ça doit donner envie de rire. Donc vous avez, j'ai même des palais du rire avec des sunrisers, par exemple, je vous ai photographié sur la fête de Bordeaux, tout est possible, des imitations des meilleurs illustrateurs de bandes dessinées connues font les façades des palais du rire. Avec un côté éventuellement un peu grivois, sans problème. Et si vous ne respectez pas ça, c'est ça que m'expliquait le peintre, pour un palais du rire, vous risquez de ne pas avoir de public. Il avait donné l'exemple d'une façade de palais du rire qui a été peinte d'après, pour représenter un peu l'aventure des aventuriers de l'Arche perdue, vous voyez, avec des temples, des chausse-trappes, des boules qui se referment sur vous, quelque chose d'intermédiaire entre le train fantôme et le palais du rire. Le même parcours accidenté, mais vu très sérieusement, qui fait peur. Eh bien, c'est un métier qui ne marche pas. Il faut... Donc c'est toute l'importance, vous voyez, de la...
Oui, c'est si aussi important que ça, la peinture.
Voilà, toute l'importance de la peinture sur une baraque hein, foraine.
Et alors la peinture de scooter, qu'est-ce que c'est?
Alors la peinture de scooter, c'est encore donc tout à fait un autre genre. Là, d'abord, il s'agit de donner l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc tous les scooters n'ont pas des grandes bâches tendues ou sur le fond qui sont peintes. Certains n'en ont pas. Ceux qui ont ces bâches peintes ont des bâches peintes dans le fond. Alors, il faut d'abord que les personnages soient peints de plein pied, de façon à donner l'impression, en silhouette, de façon à donner l'impression qu'il y a du monde sur le métier. Donc, vous avez beaucoup de très jolis pin-up qui sont là, accoudés à la rambarde, déjà, et qui donnent l'impression qu'il y a du monde. Et si on est dans une petite fête de village, les forains diraient un petit pays, eh bien, on va peindre une grande fête foraine de derrière, avec une grande roue, un grand 8, et tout ce qu'il faut pour donner l'impression que c'est la grande fête. Donc ça, c'est pour le petit métier. Alors ensuite, une fois passée cette règle de la pin-up attractive peinte de plein pied, vous avez des modes. Là, vous avez eu la mode du scooter avec des peintures de vedettes. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Claude François ont été peints sur les baraques de scooter. Alors cette mode-là a passé parce que les artistes se démodent quand même au bout d'un certain temps. Aujourd'hui, il faudrait avoir Michael Jackson, etc. Donc, s'il vous arrive de voir encore un Jimi Hendrix qui traîne sur un métier de scooter, la mode de peindre des vedettes de la variété est passée parce qu'effectivement, les vedettes elles-mêmes passent. Donc, il y a eu d'autres modes. Il y a eu, pour la peinture de scooter également, la mode des grosses voitures, enfin il y a une période pantalon pattes d'éléphant, grosses motos et villes américaines, et de ces villes américaines on est passé aux camions américains, Ce qu'on appelle la carte postale américaine avec le camion américain, la pin-up. Donc vous avez beaucoup aujourd'hui de peintures avec des camions. Alors ces peintures de camions vous permettent une chose, c'est de donner une perspective très grande. Car l'un des buts de la peinture pour les autoscooters, c'est de donner l'impression d'une grande profondeur pour agrandir encore le métier. Donc vous avez beaucoup d'effets de contre-plongée ou de vue perspective agrandie. Et puis, vous avez maintenant également des demandes de peinture de villes futuristes, type Brasilia, monument futuriste.
Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution, ou est-ce que la fête continue malgré la diversité des attractions?
Vous avez vu, avant, on commençait, il y avait les scooters avec le machin, maintenant, ça y est, tout est électrique. Vous êtes obligés de suivre l'évolution
du
temps.
On est obligé d'être moderne.
Il faut être moderne. Avant, on marchait avec deux lampes. Maintenant, on est illuminé partout.
Oui, regardez, on a plus de lumière. Quand on prend un métier, même nous, si on a des vieilles boutiques qui datent, mettons, d'une vingtaine d'années, tous les ans, c'est la peinture, c'est l'éclairage. Il faut vivre avec le modernisme. Ça, on est bien obligé de... Parce que sinon, si vous avez... Même les petits-enfants, regardez, vous prenez un manège. Si vous mettez un beau manège d'enfant avec des belles voitures de Goldorak, des machins comme ça, bon... L'enfant va y aller sur ce manège parce qu'il le trouve beau. Et si à côté, vous avez un petit manège qui est à moitié délabré, qui date de la guerre de 14, le petit enfant ne va pas y aller. Il va où c'est qu'il y a le modernisme, où c'est que c'est joli. Et puis ça, je crois que c'est un peu pour tout le monde. Hein.
On ne peut pas manquer d'être frappé par le fait que le vocabulaire employé par les forains est souvent d'origine cigane. Par exemple, on parle souvent des gachos. Je ne suis pas personnellement tziganologue, donc je sais simplement que ça veut dire « homme ». Et les noms de tziganes forains, qui sont comme moi, qui ne suis pas tzigane, emploient ce mot gadjo ou gadje, sans savoir quel est le pluriel ou le singulier. Mais l'emploi, qu'il soit d'origine tzigane ou pas d'origine tzigane, emploie ce terme pour désigner ceux qui ne sont pas de la fête foraine. Parmi les forains, il existe vraiment toutes sortes de forains. Hein. Vous avez, par exemple, j'étais récemment avec un forain qui, lui, était marinier. Dans son enfance, et sa femme aussi, c'est un couple de mariniers qui est passé du voyage de batellerie à la fête foraine. C'est assez exceptionnel, mais ça existe. Vous avez des forains qui sont venus par des mariages, beaucoup de forains avec un sédentaire ou une sédentaire. C'est souvent la femme, d'ailleurs, qui maintient la tradition foraine et l'homme qui rejoint une foraine. Mais
oui, tout justement, existe. Quelle est la position des femmes, justement, dans la fête foraine?
Alors, elle dépend également des forains auxquels on a affaire. Mais puisqu'on parlait des tziganes, qui, à mon avis, proposent sur la fête foraine un certain nombre de modèles culturels. Je parlerai plutôt de modèles culturels à propos des tziganes. Il est évident que les femmes, en général, ne montent pas les métiers. Ce sont les hommes. Et il y a une partition du travail sur la fête foraine qui fait que on a plutôt tendance à voir souvent les femmes tenir les métiers, c'est-à-dire, bon, les métiers, ce sont les attractions, mais quand un forain vous parle d'un métier, il vous parle non seulement de l'attraction, mais également de la caravane qui va avec, de tout ce qui accompagne l'attraction. Alors maintenant, on aurait tendance aussi à penser que les femmes foraines sont plus, disons, libres de mœurs que les femmes sédentaires. Et ça a été un petit peu ma surprise de m'apercevoir que, bien au contraire, je crois que, en tous les cas, je crois que ça vient en partie des tziganes, mais je crois que les tziganes ne sont pas les seuls à avoir cette attitude. Il y a une grande rigueur, une grande surveillance de la famille sur les fréquentations de la jeune fille. Et, disons, une rigueur, en tous les cas morale, extrême vis-à-vis des jeunes femmes, je crois, en général en milieu de tziganes, et par contagion sur l'ensemble de la fête foraine.
Alors moi, je suis allée à Barentin, en pension. J'y suis restée 7 ans. Et après, quand je suis rentrée chez moi pour apprendre le métier forain, puisque quand on est en pension, on vient que les week-ends.
Qu'est-ce que vous appelez apprendre le métier forain? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment?
Alors moi, je tiens les autotamponneuses, donc c'est déjà une caisse, donc c'est dur, mais il faut savoir faire marcher le manège. Donc on est là de très bonne heure quand on est enfant dans la caisse avec les parents pour regarder ce qu'eux ils font, et après c'est à nous de le faire. Donc il faut déjà les regarder faire eux, et après nous, à nous de le faire. Et comme on est en pension, on vient que le samedi et le dimanche. Donc il y a déjà, c'est les plus grosses journées de la fête. Et quand on est là, on gêne un peu les parents, donc c'est dur à apprendre. Donc après, on quitte la pension et on fait des cours par correspondance. C'est-à-dire que là, après, on est là tous les jours, à toute heure. On est là avec les parents dans la caisse du manège, comme dans les stands, tout ça.
À partir de quelle classe vous avez pris des cours par correspondance ?
À partir de la sixième.
On est un peu livré à nous-mêmes hein, dès qu'on rentre au lycée. Et ce qui fait peur un peu aux parents de chez nous, c'est-à-dire bon, de toucher à cette chose comme par exemple la drogue. Ou... Bon, on n'est jamais à l'abri, je veux dire qu'on a des enfants, on ne peut jamais dire moi, mes enfants, mais on évite. Il y a des choses qu'on essaie de... On se dit qu'en les prenant chez nous, en leur faisant faire des cours, ça se passera mieux, on les aura sous les yeux. Bon, la peur n'évite pas le danger, comme on dit, mais on peut prévoir.
Quand on est dans les collèges ou au lycée, ils parlent beaucoup de fiancés, de copains. Que comme moi, ils viennent me voir à ma caisse, ils me parlent des manèges, de la vie de forain. C'est déjà différent. Je préfère, moi, parler de la vie de forain que les filles qui viennent m'expliquer leur vie sentimentale. Nous, on se l'explique entre forains.
Et nous sommes là, en ce moment, dans un lieu de rencontre de la foire des Tuileries, oui. De la fête des Tuileries, dans un lieu qu'on pourrait appeler un café, mm-hmm. disons, dans un milieu plus sédentaire.
C'est vrai.
Et il y a peu de femmes dans ces endroits-là.
On évolue, vous savez, on a une évolution quand même en nous hein, qui se fait. Mais ce n'est pas interdit, mais par contre, il est vrai que si on voit 5 hommes autour d'une table et puis qu'il n'y a qu'une femme qui rentre, bon, qu'est-ce qu'elle va venir faire ? Elle va s'asseoir en face des 5 et se mettre à parler, ça va aller 5 minutes. Mais ça ne peut pas aller plus loin, je veux dire, non, mais s'il y a une femme ou deux, bon, ben, les femmes peuvent rentrer. Non, c'est fini. On évolue quand même, il y a de l'évolution quand même qui se passe chez nous. Hein.
Oui, mais il y a un code tacite quand même. On voit, c'est un fait qu'on voit très peu de femmes.
C'est vrai, il y a un côté où c'est qu'on... On a gardé ces petites choses un peu de l'époque, je veux dire d'avant. C'est beau, c'est pas plus mal. Mais non, on évolue quand même. Il y a certaines choses où on essaye d'avoir une évolution et je trouve que c'est beau.
Mais les femmes qui font le striptease forain ne sont pas des foraines, ne font jamais partie du milieu forain.
Ah non, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est-à-dire que autant on va jouer peut-être du fait, disons les reines des forains, il y a une élection de la reine qui doit être certainement une belle femme, mais en même temps, une femme qui sache parler, une femme qui sache représenter la corporation. Et
oui, sa représentation est plus sociale.
Elle est sociale. Hein. Et bon, mais sur l'attraction foraine, vous allez avoir une femme qui sait se débrouiller en général. Et le fait que ce soit une belle femme n'enlève rien. Ça ne veut pas dire que c'est une femme dévergondée. Loin de là. Elle est très tenue. Et pour les striptease, on fait appel à des gens d'extérieur. Je crois que le statut, finalement, des stripteaseuses... dans le cas des striptease, est tout à fait comparable à celui des gosses auxquels on fait appel pour prendre les jetons sur les scooters. Vous voyez, quand des autotamponneuses vont d'un endroit à un autre, le forain fait souvent appel à des gosses de 15, 16, 17 ans qui se font de l'argent de poche ou un peu le droit d'aller sur les autotamponneuses ensuite en ramassant les jetons. Mais c'est pas le même monde. Hein. Et ça, c'est pas une question de tzigane ou non tzigane. Hein, ne mélangeons pas. C'est forain, non forain.
Ma mère, elle était née dans un tir. Mes grands-parents avaient un tir. Et elle a été la deuxième Esmeralda en 1921. En 1921. Elle avait 21 ans.
Normalement, l'Esmeralda, ça a été depuis toujours, c'est la reine de toutes les reines, comme on dit, la reine de France. Esmeralda, reine des forains de France. Et il y a quelques années de ça, on a fait la reine des reines, c'est-à-dire de mettre un titre plus gros. Mais en fin de compte, ça se joue. Les titres sont exactement pareils. Reine des reines et Esmeralda, reine des forains, c'est exactement pareil. Maintenant, en dessous, il y a la reine des Tuileries, il y a la reine des Loges, il y a la reine de Saint-Cloud. Il y a des reines un peu de différents pays, je veux dire, de régions même parisiennes. Et tous les ans, donc ça se passe au mois d'avril, on vient chercher les jeunes filles et on leur demande s'ils veulent se postuler pour le titre, je veux dire, soit pour être Esmeralda ou Reine des Loges, ou peu importe le titre, hein, même s'il est plus petit que d'autres, on peut se présenter du moment qu'on a un titre. Et comme on dit, la plus sympathique, la plus celle-ci qui se donne, qui essaie de se donner vraiment pour ce rôle, parce que c'est quand même une petite bataille de l'année, je veux dire, ça sera celle-ci qui se portera le mieux, qui sera la plus battante, s'il y a une radio, s'il y a une télé, s'il y a un débat à faire, à s'imposer, c'est important, je trouve. Parce qu'il est vrai que des fois, on peut rester derrière soi même et puis se dire, est-ce que je peux, est-ce que si on part de ce principe, on n'arrive à rien du tout. Son action, c'est d'être là quand il le faut, et c'est important, je trouve.
Et oui, justement, en ce moment, on parle de la bataille des forains. Alors, qu'est-ce que c'est cette bataille? Comment vous intervenez, vous?
Il est vrai qu'on essaie de recréer des emplacements pour pouvoir que nous, la nouvelle génération, on exerce ce métier. Parce que vous savez qu'on essaie de nous faire un peu disparaître. Et on se bat pour ça. Et ça, c'est très important d'en venir sur ce sujet. Mais la reine, ce qu'elle fait dans ce milieu, ce qu'elle nous soutient. Elle passe à la télé et elle essaie de parler de nous, de plaider notre cause, de dire qu'il ne faut pas qu'on... Parce que c'est quand même quelqu'un, donc elle a un titre et elle peut éventuellement défendre un peu notre façon de vivre, de s'exprimer. Quand elle parle, elle a toujours un mot pour nous, elle ne nous oublie pas.
Enfin, moi, je ne fais plus la loterie, mais je suis une très vieille famille de loteurs, oui. Mon père est né en 1885 et mon grand-père était déjà dans la loterie à l'époque. C'est lui le premier qui a monté la loterie aux 1000, c'est-à-dire une loterie à trois roues. On distribuait des billets, ça existe toujours. Vous avez... Et si vous voulez, ça, on donnait un gros lot au tirage. Si vous voulez, il y avait donc 1000 numéros et il y avait un gagnant qui emportait ou un service à café, ou un service de table, ou un fauteuil, ou un carillon, enfin. Et mon père a continué après la loterie, mais à la loterie là, à la roue alors. C'est-à-dire une seule unique roue qui tournait. Voilà.
Plus traditionnel alors?
C'était pas plus traditionnel, c'est venu après la loterie aux 1000. C'était un autre jeu, c'était toujours dans le métier de loteur, si vous voulez. Mon arrière-grand-père avait une loterie à la vaisselle, dans une petite tendue, c'est-à-dire que c'est une petite boutique couverte en toile, ça n'avait rien à voir avec les établissements que vous connaissez maintenant.
Allez-vous avoir joué, c'est super là, messieurs.
J'ai vu encore sur une fête de province un tir aux anneaux avec des canards vivants. Il faut savoir que si la SPA voyait ça, le forain aurait tout de suite les pires problèmes. Parce que normalement, on n'a pas le droit. Mais c'était une attraction très très fréquente. On lance les anneaux sur les canards qui sont vivants, et si on arrive à le passer autour du canard vivant, on emporte le canard. C'est pas facile, c'est très mauvais pour le canard, parce que ce jour-là, il faisait très chaud, et beaucoup de canards meurent de soif, quand même. Bon, je veux dire, c'est cruel aussi. Mais c'est vrai qu'on vit aussi dans un monde qui est beaucoup moins cruel et dur que ne l'était le monde des débuts de la fête foraine. Oui. Il faut savoir que je crois qu'encore en Hollande aujourd'hui, m'a-t-on dit, il y a ces jeux de massacre où ce sont les gens qui passent eux-mêmes la tête dans les ronds des massacres. Vous connaissez ça?
C'est la noce à Thomas ou la noce à Mélanie, mais oui, qui se faisait avec des mannequins.
Voilà. Alors,
mais là, ça existe avec des gens.
Il y a, en France, il n'y a encore pas si longtemps, quelques décennies, de même qu'on recrute vos filles pour les striptease, on recrutait des gens avec des gueules pas possibles, si je puis me permettre. Et ils mettaient leur tête dans le rond et on pouvait leur tirer dessus avec du son ou des choses comme ça, ou des œufs pourris. On supporte plus. Disons, on a du mal à accepter notre voyeurisme au niveau des monstres. Hein. Bon, jadis, les gens étaient avides de monstres. Alors effectivement, par exemple, je crois que les tziganes recueillaient des enfants, mais des enfants perdus, je veux dire, et les élevaient comme leurs propres enfants. Je crois que il faut savoir que pour les forains, pour ces milieux minoritaires, les enfants, c'est tout. Mais que l'enfant est le roi, je crois, dans le milieu, aussi bien dans le milieu forain là, que dans le milieu tzigane. Mais que les gens qui passaient, disons, du voyage en général, de village en village, comme ils le disent eux-mêmes, de pays en pays, recherchaient des monstres, des anomalies de la nature, des moutons à cinq pattes. Alors, ils n'avaient pas vraiment une cinquième patte, mais ils avaient un appendice qui pouvait faire penser qu'ils avaient une cinquième patte ou une deuxième tête, etc. Donc, ils recherchaient ça. Et dans les journaux du début du temps, type le voyageur forain ou l'industriel forain du début du siècle, on voit des annonces recherchons monstres, hommes troncs, etc. Et on aimait donc montrer ces personnages au public. Bon, alors aujourd'hui, il y a encore l'homme le plus grand du monde, la plus grosse femme du monde. D'ailleurs, je crois que des associations féministes ont essayé de demander à cette dame d'arrêter ou si elle considérait... Enfin, elle dit qu'elle connaît bien les forains, que ça la gêne pas du tout de se montrer comme ça et qu'on lui foute la paix. Alors, on vous présente encore des Lilliputiens, on vous présente des chevaux-nains. Disons qu'on essaye de présenter maintenant des phénomènes, mais qui n'ont pas le côté... malsain, par exemple, du cadavre mort de faim. Enfin, on n'essaye pas de voir trop de maladies, de difformités. On essaye plutôt de voir des choses extraordinaires, mais au sens où effectivement quelqu'un de très petit, c'est extraordinaire, ou un tout petit cheval, c'est extraordinaire. Bon, il y a une nouvelle, un des derniers entre-sœurs, une des dernières choses qu'on peut voir, c'est effectivement des tout petits chevaux américains. Bon, c'est très, très innocent par rapport à ce que je viens de décrire. Ça correspond peut-être davantage aussi à la sensibilité de notre époque.
Au dernier numéro, et que je ne vous en dis pas davantage, je vous laisse tout simplement regarder, je vous laisse tout simplement imaginer. Loulou termine la séance et présente donc le sixième menu, tout nu, le sixième menu intégral. Chez nous, il n'y a pas de première, pas de seconde, pas de supplément à l'intérieur. Quant au prix des places, c'est sans surprise, je vous l'annonce, c'est 15 francs. Êtes-vous amateur de nu ? Voulez-vous passer 25 minutes agréablement ? Allez, c'est par ici.
Il faudrait me raconter qu'il n'y a pas très loin, finalement, du phénomène au striptease. Parce que dans un premier temps, on vous présente la femme serpent. Alors, effectivement, c'est une femme, en général, c'est une femme entourée de serpents, environnée de serpents. Et la forêt m'a très bien expliqué comment on porte un serpent, ce qu'ils apprennent tout petit. On le tient, et si vous regardez les photos maintenant, j'étais amusé à vérifier cela, on lui tient la tête à la base du cou, d'un côté, et on empêche, si c'est un gros serpent, on l'empêche de former un anneau autour de votre cou. Donc, quand vous avez une personne qui tient un serpent en photographie, en général, vous verrez qu'elle tient toujours, d'une part, le corps pour empêcher de faire le serpent de former un anneau autour du cou, et d'autre part, sous la tête. Bon, alors, on présentait ces femmes au milieu des serpents. Bien sûr, les gens regardaient au moins autant la jeune femme que les serpents qui accompagnaient la dite jeune femme. Alors, de plus en plus, on a présenté la femme crocodile dans une tenue de crocodile. On a montré de plus en plus de la femme et de moins en moins du serpent.
Oui, il y avait les dompteuses aussi.
Voilà, les dompteuses, tout ça pour arriver carrément à montrer que la dame elle-même. En fait, la tradition du striptease, moi, je la situerais dans la tradition générale de montrer des phénomènes. C'est le voyeurisme sur la fête foraine, et qui est une grande tradition. Hein. On va voir aussi bien une momie venue d'Égypte que...
D'ailleurs, du phénomène au personnage qu'elle joue, au travestissement qu'elle propose, il n'y a qu'un pas.
Voilà, non, tout à fait. Bon, ben, Miss Goria, c'est un petit peu, Miss Goria joue tout à fait. C'est pas, on va pas demander à un grognard de jouer Mister Goria, c'est Miss Goria. Soyons clairs.
Au départ, on m'a appelé comme normalement pour faire du striptease, donc dans les baraques foraines.
Il y a combien de temps? C'est récent.
Il y a 2 ans. Et on m'avait pas dit que c'était pour travailler avec des serpents. On me l'a montré, le serpent, et on m'a dit, ben voilà, aujourd'hui, il faut que tu fasses la parade avec le serpent, parce que ça attire du monde, et c'est beaucoup plus marrant, et tout ça, il faut absolument le faire. Et moi, j'ai pleuré carrément, j'osais pas toucher dans ce serpent, parce qu'il était énorme. Je l'ai vu juste avant avaler tout d'un coup un gros pigeon qu'il a écrasé, il y avait une grosse boule dans son ventre pendant des heures et des heures pour dégérer, c'était affreux. Je dis, jamais je pourrais toucher à cet animal. Et là, il y a une petite gamine, toute petite gamine de 5 ans qui arrive. Il commence à caresser cet animal. Je dis, c'est pas possible, parce que si une petite gamine comme ça le caresse, comment moi je peux pas le faire? Et j'ai touché, elle m'a pris ma main, elle m'a fait toucher le serpent. Je dis, mais c'est incroyable, comme je croyais que c'était un truc tout visqueux, tout froid et humide et tout ça, parce qu'ils sont vachement brillants. Et c'était tout doux, le contraire, super sensuel à toucher, hyper agréable. Et surtout, il y avait un côté sensuel vachement considérable avec cet animal. Et tout de suite, il a commencé à monter sur mon bras, il est venu, j'avais peur qu'il m'étrangle, mais il a resté tranquille, il s'est endormi carrément sur mes épaules. Je dis, bon, c'est bon, je vais y aller. Et voilà, c'est comme ça. J'avais encore les larmes sous les yeux. Et il était sur moi et je suis partie en parade comme ça. Et on a travaillé toute la journée avec. Et ça tirait un monde fou. C'était dans le nord, dans un petit village, qu'avec des paysans, avec des grosses bottes jusqu'ici pour la boue. C'était dans un petit village qui s'appelait 40 ans. Un tout comme une petite bled perdue. Avec les mecs qui se coupaient le gigot avec le canif, comme ça, ils nous regardaient en train de manger son gigot. C'était impressionnant, vraiment. Je crois qu'eux aussi, c'était impressionné.
En fait, les animaux vous attirent, même les serpents. Vous avez pris le prénom de votre chat pour
oui,
vous.
C'est vrai.
Alors, les animaux, qu'est-ce que...
Ben, les animaux, je sais pas. Y a le fait que je sois fermée là, comme vous dites, dans une cage en vitre, et que tous ces gens me regardent comme dans un zoo, un peu. Oui, ça me fait réincarner, en effet, des âmes d'animal. Ouais, c'est possible. En tout cas, avec ma musique, je le sens.
Toujours dans la présentation du Nuit et du Cabaret. Alors, nous repartons cette fois-ci sur Nina. Nina, c'est notre bolognaise. Alors, celle-ci. Pour la voir à l'intérieur, hein, striptease à la bolognaise, je vous dis que ça. Il ne paraît pas comme ça, mais à l'intérieur. Ah, c'est le machin, comme le machin. Toujours
je crée un personnage un peu agressif, un peu animal, surtout sous, ça que j'écris de la percussion, donc je me sens un peu comme dans la jungle, un peu comme une petite panthère qui se tord en tous les sens, tout ça. Peut-être que comme j'ai des couettes et tout, j'ai un air un peu petite fille, et ils croiraient que je serais peut-être une petite douceur qui arrive, qui se caresse, tout ça. J'arrive, je saute dans tous les sens, je tourne dans tous les côtés et tout ça. Ça peut-être les faire bizarres et des fois, je sens qu'ils sont un peu choqués. Mais bon, à la fin, je fais un gros sourire pour les rassurer que c'est pas une petite panthère qui va les sauter dessus, mais qui reste là, voilà, non.
Est-ce que vous faites autre chose que le striptease forain de Pigalle?
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est pour vous ces moments dans ces baraques foraines de Pigalle?
Mm-hmm. C'est un moment de liberté, de détente et de tranquillité vis-à-vis de mon foyer, surtout.
Ah bon? Racontez un petit peu.
C'est-à-dire que c'est l'argent que je gagne, il est entièrement que pour moi, je fais ce que je veux. Et ça me permet de me libérer un peu vis-à-vis de la vie que je mène normalement, que c'est une vie complètement hors de toutes ces histoires de strip et de
ah cuisses, bon, vous ne faites que ça. Vous ne faites que le striptease de Pigalle.
Voilà.
Et autrement, vous menez une vie familiale?
Non, j'ai un mari, j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais voilà.
Ah oui, vous ne faites qu'à ce moment-là de l'année.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors donc, c'est donc la liberté dans ce sens-là.
Dans ce sens-là, voilà, où je n'ai pas mon mari tout le temps sur mes fesses, excusez-moi.
Mais vous avez d'autres regards. Alors comment ça se passe, ces autres regards? Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous dansez?
Quand je dansais, ça me fait de l'exercice surtout, parce que à ce moment précis de l'année, je me sens très complexée parce que je mange beaucoup de chocolat. J'en ai plein dans le sac. Et je grossis de partout et ça me permet surtout de transpirer et de bien dépenser mes énergies.
Nous sommes 3 ou 4 baraques de striptease, c'est ce qui anime d'ailleurs un peu le quartier. 3 parades et 2 permanents, oui. Et c'est nous qui, si vous voulez, qui drainons le monde sur le boulevard, parce que bon, bah, même les gens qui n'ont pas d'argent peuvent venir s'amuser, regarder la parade, on fait danser les filles, on essaye de les mettre en condition pour les faire rentrer, quoi. Voilà notre boulot, c'est le boulot du banquiste.
Oui, alors le banquiste, justement, par rapport au commerçant, c'est celui qui travaille comme un saltimbanque sur
ouais.
un banc.
Voilà, c'est ça, oui. Disons qu'on est un petit peu comme la fable du corbeau du renard. Tout beau parleur vient aux dépens de celui qui l'écoute. On essaye de leur en dire le maximum dans le micro et pour leur en faire voir, bien sûr, un minimum à l'intérieur. Ça, C'est le truc du banquiste.
Moi, je viens de voir deux ou trois baraques. Là, c'était très, très joli. Et ce qui étonne toujours, c'est qu'on ne paie que 10 francs. Alors que vraiment, on peut rester tout le temps qu'on veut. Là, il y a deux jolies jeunes filles à côté qui font un striptease devant. Il y avait quelques messieurs qui étaient là. Et c'est étonnant qu'on ne paie que 10 francs, ce qui est quand même pas beaucoup.
Hein. Non, mais là, c'est pour vous donner le distinguo. Ça, où vous êtes allé, c'est un permanent. Un permanent veut dire qu'on entre et on reste le temps qu'on veut à l'intérieur. Que nous, on travaille à la séance, on fait la parade. Le spectacle dure 15-20 minutes selon le nombre de filles que nous avons à passer. Et les gens ressortent après. Ce n'est pas un travail permanent. Le permanent ne fait pas de parade.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Moi, je peux dire, parce que j'ai longtemps fréquenté le boulevard comme ça. Là, vraiment, c'est le nu intégral qu'on ne voyait pas autrefois. Et puis autrefois, c'était des personnes qui n'étaient pas toutes très jolies. Maintenant, vraiment, elles peuvent s'aligner sur n'importe quelle stripteaseuse qu'on voit dans un grand cabaret où on paierait peut-être 500 francs. Quoi.
Là, on essaye de choisir des plateaux qui attirent le client quand même. Hein. Bon, il y en a certains, c'est le nombre qui les fait rentrer. D'autres, c'est la personne qui les fait rentrer. Il faut quand même, il y en a, là on est trois baraques de striptease, il y en a pour tous les goûts. Hein. Et on est tous au même prix, c'est ce qui est bien. Quoi.
Je vous dirais même que là, entre leurs deux numéros, il y avait deux jeunes filles, elles se sont arrêtées, elles sont revenues avec des petits sachets en plastique où il y avait des biscuits au crabe. Elles ont donné aux spectateurs, on a mangé des biscuits au crabe avec un trempé dans de l'aioli, je pense qu'elles sont de Marseille. Voilà. Et puis après, elles ont recommencé le striptease.
Donc là, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que c'est parce qu'on ne travaille pas, parce que normalement, quand on travaille, bon, bah, y a pas de, disons qu'il n'y a pas d'arrêt comme ça. Quoi.
Ce sont les seuls spectacles forains, en fait, qui existent encore.
Non, madame, il y a encore beaucoup de spectacles. Il y a encore beaucoup d'entresorts, de métiers à parade ou de permanents. Alors, métier à parade, je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, c'est la baraque de striptease. C'est l'illusion, c'est la baraque de lutte, c'est le mur de la mort, c'est toutes les illusions. Et le permanent, c'est un permanent, c'est une fille qui présente des serpents, une fille qui présente des rats. Et ça, c'est une profession qui est en train de mourir. Parce que les jeunes qui arrivent maintenant, qui ont 18-20 ans, comme moi, je vais prendre le cas de mes gamins, bon, si je les sermonne pas pour rester dans ce domaine-là, ils veulent tout de suite le gros manège, le gros truc. Et nous, c'est pas notre vie. Notre vie, c'est d'être dans la parade, dans le spectacle, et de donner l'illusion aux gens, puisque nous, on arrive à croire, moi comme moi, je crois ce que je fais, donc j'arrive à convaincre les gens que ce que je leur explique est vrai. Bon, pas au niveau striptease, puisque j'ai dit tout à l'heure à madame que j'avais d'autres choses aussi. En temps normal, je tiens sur toutes les grosses villes de France, je tiens une attraction qui s'appelle Le Gorille. Et c'est une illusion qui est tirée des feuilletons qu'on a vus à la télévision, Hulk, Manimal, tous ces trucs-là. C'est tellement bien fait, je ne peux pas vous dire ce que c'est forcément, je le garde pour moi, c'est un secret. Et c'est moi qui l'ai mis au point d'une façon assez spéciale, parce que bon, bah, quand les gens sortent de chez moi, il y a la panique, ils arrachent les rideaux pour sortir, les gens se piétinent. Et je travaille en famille, je travaille avec mes enfants. Donc quand je suis en parade, que j'ai les gens devant moi, je suis stimulé par ce que je fais. Je pense que, je ne dis pas que je ne ferai pas autre chose, mais pour l'instant, je ne peux pas changer de corps de métier, parce que c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé mon créneau dans ce domaine-là. Voilà, tout est dans le baratin.
C'est trêve de parade et de plaisanterie, car la parade, ça n'a rien à voir avec le spectacle que nous présentons à l'intérieur. À l'intérieur, je ne vous présente pas de la danse. À l'intérieur, je vous présente un spectacle de cabaret. Un spectacle de nuit intégrale, interprété par toute la troupe que voici. Tenu en tout premier numéro, en tout premier striptease, eh bien, je vais vous présenter Zika. Zika, notre Suédoise. J'interprète un striptease des plus chauds. Aussi chaud que son pays est froid. Et voici Zika. Belle et gracieuse à l'égène, il faut la voir à l'intérieur, monsieur. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Ce sera donc le premier striptease du spectacle.
Nous, on le fait de façon pour un besoin d'argent aussi, mais pas le même qu'elle. Enfin, c'est... Enfin, je peux quand même pas dire... Lydie... Bon... Enfin, il y en a, c'est la grosse misère, et puis il y en a, c'est la misère moins grave, quoi.
Oui, alors voilà. Vous êtes du côté de laquelle... De la quelle misère grave. La moins grave.
C'est-à-dire le besoin d'argent uniquement, et puis voilà, quoi.
Oui, c'est pas par une nécessité absolue, voilà. C'est pour gagner de l'argent, mais pas par le couteau sous la gorge, quoi. Voilà. Pas par obligation impérieuse, c'est voilà. Ça.
Moi, je crois qu'on aime peut-être les contacts qu'on peut avoir au cours d'une fête, qu'on peut rencontrer, enfin, on peut se faire des amis.
Ah non ?
Oui.
Parmi le public ou parmi...
Ah, parmi le public, oui.
Ah oui?
Parce que moi, je suis maquilleuse et j'ai rencontré des photographes avec qui j'ai travaillé. J'ai rencontré des photographes ici et j'ai travaillé avec eux après. Non, on peut se faire des vrais amis. Et puis, il y a aussi des messieurs qui viennent ici uniquement parce qu'ils ont envie de... Enfin bon, ils ont envie peut-être d'un peu de chaleur. Et puis, si on cause un petit peu avec eux, en fait, ça va leur faire un petit peu d'amitié. Ils seront tout à fait contents. Ils seront contents que quelqu'un leur accorde un petit peu de chaleur. Et puis, voilà, quoi. Il y en a qui reviennent uniquement pour ça. Et ça fait 4 ans qu'ils viennent uniquement pour discuter avec nous.
Ah bon, ils vous attendent donc? J'avais l'impression qu'ils partaient tous une fois que le spectacle était terminé. Non, non.
Non, non, il y a des clients, ils reviennent depuis des années et ils viennent à 7h le soir et jusqu'à la fermeture.
Et qu'est-ce qu'ils vous racontent en fait? Qu'est-ce qu'ils vous racontent?
Moi, je crois que de toute façon, ils ne parlent pas tellement de leur vie parce que justement, je crois qu'ils savent très bien sur leur vie, il n'y a rien à raconter. Mais justement, ils ont envie d'être quelque part où on ne leur demandera pas ce qui se passe dans leur vie. Où ça va se passer comme ça, tout simplement, quoi. On va discuter avec eux du moment présent ou de banalité, de généralité, mais c'est tout.
Mais il est fait de quoi, le moment présent, quand il parle?
C'est, par exemple, une salle où il n'y a pas un client qui veut donner de l'argent, et puis on discute du fait que les facultés sont tous bloqués, qu'ils n'ont pas voulu donner un sou, et ainsi de suite. Et puis bon, on parle de choses et d'autres, mais pas de leur vie, quoi.
Dites votre prénom ou vous appelez-moi
avancer. Foxy.
Foxy. Alors, vous êtes Foxy ici dans une baraque foraine avec striptease permanent.
Alors, le permanent, d'abord, c'est une entrée que les forains ont mise à un prix minime qui est de 10 francs, exprès pour que les gens de toute bourse puissent entrer déjà. Parce que tout le monde sait très bien que le pourboire est de rigueur. Personne ne se permet de ne pas donner une pièce. Bon, les riches donnent des gros billets, les moins riches donnent des pièces, petites ou grandes, mais tout le monde donne. Comme le pourboire est de rigueur, bon, il y en a qui donnent des billets, il y en a qui donnent des pièces. On ne demande pas un prix, mais on ne veut pas non plus être comparé à Madame Pipi, quoi. Il ne faut pas non plus donner la même chose quand on va pisser que quand on va voir un striptease, c'est la moindre des choses. Autrement, on a vraiment l'impression d'être exploité, quoi. C'est pas honnête. Ici, c'est un peu une grande famille, parce que tous les gens qui viennent, on les connaît, on les repère. Souvent, ce sont des clients journaliers qui viennent pour une ou deux séances. On sait qui ils sont. Il y a beaucoup de clients permanents. Et le permanent, c'est aussi, vous commencez de 2h de l'après-midi jusqu'à minuit, minuit et demi, non-stop. C'est dur. On se déshabille en moyenne 90 fois par soir, quoi, dans la journée jusqu'en soir. Les pourboires varient, bien sûr. Et on instaure un climat plus charmant avec les gens. Les gens sont là aussi pour nous parler. On lit facilement contact, amitié. Et c'est pas du tout ce qu'on croit, le type pervers qui va venir comme ça pour voir avec un Davis là. Un instant.
Oui, la grande. On t'attend.
Voilà. Qui va venir avec un œil vicelard et tout. C'est pas du tout ni pipcho ni rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ce côté-là. Ici, c'est simplement pour le regard, pour la beauté, pour le charme, le contact, la plaisanterie si on veut discuter, ou simplement pour voir un striptease et puis partir aussi. Ça fait partie, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est tout à fait ça. Ça n'a rien à voir avec ou la vitrine, ou comment on peut appeler ça. On veut pas de glace, nous. Même si on est un peu plus froid, on veut pas de glace.
Je sais pas ce que tu fous, mon gars. Tu me sabotes mon numéro, c'est ça? Bon, on va continuer.
Toutes mes excuses, un petit instant, il y a un incident technique là.
Oui, bon, on va continuer à fumer sa cigarette.
C'est pas seulement le corps qui nous intéresse.
Non, il n'y a pas que ça en fin de compte. On vient chercher plutôt. Moi, c'est pas le striptease qui m'intéresse en fin de compte. Ce serait plutôt la chaleur humaine, le contact humain. Parce que bon, moi je suis déjà allé à côté déjà. Bon, il faut dire en fin de compte, bon, ça a été 10 francs d'entrée à côté. On va payer 50 balles, on a du contact de 6 mètres de distance et on n'aura rien. Tant que là, on peut discuter plus ou moins. c'est pas tellement le physique qu'on recherche, hein, le côté sexuel. On cherche plutôt quand t'es contact entre nous, quand, entre êtres humains. Bon, style, bon, bah, j'avoue, moi je suis un peu paumé, je vais essayer juste en pouvoir discuter. Même le pourboire qu'on vient de dire, à l'instant, là, même le pourboire qu'on vient de donner, on va le donner, mais c'est pas tellement pour voir. Bon, en fin de compte, on est dans la vérité, c'est pas tellement pour la paire de seins qu'on va voir. Alors, en fin de compte, la vérité, c'est pour pouvoir discuter après, derrière.
Il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on est stripteaseuse qu'on est forcément des connes. Moi, je perds 8 langues, et c'est quand même important. Et bon, il y en a qui le comprennent pas. Alors, des fois, les clients, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, nous regardent avec des grands yeux parce qu'ils nous voient parler un anglais, l'autre italien, l'autre espagnol, l'autre arabe, l'autre yiddish, etc. Et les gens vous regardent un peu comme ça, comme s'ils étaient étonnés. C'est la 7e merveille du monde qui apparaît. Et en plus, elle s'est pensée, quoi. Alors ça c'est important de le dire. Qu'on fait pas forcément toujours que ça, puisque, bon, Lou vous en a parlé tout à l'heure, elle fait un truc. Moi, je suis étudiante. Donc, c'est peut-être aussi qu'un appoint. C'est peut-être parce qu'on n'a pas aussi de famille pour continuer nos études qu'on fait ça. C'est juste un appoint, c'est juste un passage dans la vie. C'est pas parce qu'on fait ça non plus que demain on va se prostituer ou qu'on va se droguer. Ça n'a rien à voir. Qu'il y en ait qui le fasse, bon, ça c'est une chose. Mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Ça c'est important. Ici, on regarde, on ne touche pas. D'ailleurs, tous les gens qui viennent le savent. Autrement, il y a des bordels, il y a des pipe shows, il y a des putes partout à Pigalle. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, à la porte d'à côté, vous avez ou Travelot ou Féminin, vous avez tout ce qu'il vous faut sous le coude, si je puis dire. Et il n'y a vraiment pas besoin de ça. Les gens, d'ailleurs, ne nous le proposent pas. Ceux qui nous le proposent, on le vire avec part et fracas où on le dit t'es trompé d'enseigne, il y a une erreur quelque part, t'as pas compris le film. On leur explique vraiment qu'ils se sont vraiment trompés, quoi.
Puisqu'il s'agit d'arrondir les fins de mois, finalement, pourquoi avoir choisi le striptease? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
C'est pas question de plaire. Au départ, la première fois que je l'ai fait... Bonjour, monsieur. C'est parce que je ne pouvais pas concilier en même temps les études et un travail normal. Parce qu'au départ, je pouvais le faire. C'est-à-dire que j'avais un travail à plein temps et je faisais mes études le soir. Après, j'étais obligée de faire un travail à mi-temps parce que j'avais des études l'après-midi. Et ensuite, j'ai eu mes études en temps complet, donc je ne pouvais pas concilier les deux. C'était pas possible du tout. Autrement, je perdais plus ce qui me donnait le courage de continuer dans la vie que de faire un travail normal. Alors, il y avait le choix qui s'imposait. Ou mon avenir avec mes études, ou alors ce travail d'appoint qui, pour moi, ne devait pas de continuer. C'était en attendant. Il est vrai que pour certains, l'attendant dure des années, parfois 10 ans. Chez moi, l'attendant devait être qu'un attendant. Et donc, j'ai trouvé ce moyen tout à fait par hasard. Une copine qui me dit « Tu veux pas faire du striptease ? Moi, j'en fais, je suis mes études en même temps. » Je dis « Ça va pas, non ? J'ai pas une attitude à faire ça, ça va pas. » Et puis, après, j'y réfléchis parce que je savais très bien que je ne pouvais pas m'en sortir entre mon travail pour mes études, le loyer et la bouffe, on ne pouvait pas y arriver. Et j'ai fait ça juste pour un week-end. Et je me suis aperçue que c'était pas plus mal qu'autre chose, quoi. Voilà.
Mais là, vous le faites juste au moment de Noël ou vous travaillez ailleurs?
Non, là, ça faisait 2 ans que je n'en avais pas fait. Et comme j'ai eu un petit revers de fortune... et que j'étais prise un peu, moi, à la gorge, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme. Je devais faire face à une échéance de loyer, parce qu'il y en avait 3 que j'avais pas payé. Donc, il fallait bien que je fasse quelque chose, et je me suis dit, bon, il vaut mieux que je refasse ça qu'autre chose.
Quand vous avez besoin d'un appoint, justement, pour financier, vous pouvez, du jour au lendemain, comme ça, trouver une baraque qui vous engage. C'est facile?
Non, c'est pas facile. La première fois que vous êtes prise, si vous plaisez, on vous reprend. Après, les forains ne se passent pas les numéros de téléphone entre eux, généralement. Ils n'aiment pas qu'une fille
aille d'une boîte à l'autre. Enfin,
une baraque à l'autre. C'est un peu leur propriété. Comme si ils les avaient embauchés, alors il fallait toujours qu'elles bossent pour eux et pas pour un autre. Ça, c'est un tort. C'est un tort. Parce que la fille, si elle a besoin d'aller travailler, elle va partout, ce qui est tout à fait normal. Bon, il y en a qui font ça depuis 15 ans, 18 ans. Il y en a qui le font que depuis très peu. Mais généralement, les filles qui se plaisent entre elles, lorsqu'elles savent qu'à un moment donné, il y a une baraque qui manque d'une fille, on l'appelle. Généralement, ça se fait comme ça, par affinité.
Et c'est rentable? Vous estimez que c'est rentable par rapport à d'autres emplois temporaires?
C'est tout à fait relatif. Tout à fait. La rentabilité à ce niveau-là, vous pouvez très bien partir un week-end en province pour travailler... et ne vous faire que 500 francs pour le week-end. Ce qui est pour 90 striptease dans la journée, pas beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Vous faites la division, ça fait pas beaucoup de francs le striptease. Comme vous pouvez partir un week-end, vous faire 2000 francs. C'est tout à fait aléatoire. Par contre, Pigalle, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas du tout notre vie de la même manière. Parce qu'on est payé beaucoup moins dans la journée. On est payé que 100 francs par jour. Et le reste, c'est le pourboire. D'où la nécessité d'avoir des bons clients qui nous aiment bien, qui ont un bon contact et qui aiment revenir. Parce que le client qui revient, c'est un client content. Donc s'il est content, on sait qu'il nous donnera un joli pourboire. Ça, c'est important aussi.
Mais il ne se lasse pas. Il vient, mais il voit toujours la même personne.
Ils sont là depuis 3 heures.
Depuis 3 heures?
Oui.
Non. Il ne faut pas le cacher, il ne faut pas être hypocrite quand même. Il y a la découverte infinie du corps féminin. On va dans la pour voir du striptease parce qu'on voit des femmes entièrement nues maintenant qui dansent et il n'y a pas deux corps qui se ressemblent. Il y a un désir absolument inassouvissable de l'homme de découvrir le corps de la femme. C'est un peu comme si on visite un musée. Quoi. Il y a des peintres qui en présentent.
Il y a des brunes, il y a des roses.
Exactement. Voilà.
Il y a des noirs. Ici, dans le fief que nous sommes, il en faut pour tous les goûts. Voilà.
Hein. Comme le Louvre est fermé pendant 2 mois maintenant, c'est plus simple d'aller au striptease forain boulevard de Pigalle ou à la place Blanche que d'aller au musée du Louvre, quoi. Et c'est sûrement aussi émouvant et aussi beau.
Pour terminer cette pléiade de striptease, alors je vous transporte cette fois-ci au Zaïr, et le Zaïr avec Fabiola.
Grand angle, la fête foraine. Avec les paradistes, Madame Franquito, Monsieur Vessière. Les reines, Katia et Sabrina. Zef Gourarier, Pierre Bourjade.
Et on roule toujours.
Et Katia, Jessie, Cassandre, Foxy, Lou. Prise de son, François Le Calvez et Jean-Marie Charon. Mixage, Agnès Varnier et Hervé Kelfer. Réalisation, Nathalie Trianda, sur une proposition d'Agnès Pierron.
Merci beaucoup. Ce sera donc le dernier striptease, le cinquième striptease du spectacle. Bien entendu, notre spectacle n'est permis qu'aux grandes personnes seulement. Et je pense ne pas avoir besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre le genre. Par conséquent, si vous êtes sorti ce soir dans l'intention de vous amuser et de voir des femmes, des belles femmes comme celle-ci, du nu intégral et du striptease, alors messieurs, n'hésitez pas. Le prix des places est à la portée de toutes les bourses. Mesdemoiselles passent en scène et le spectacle commence immédiatement que la caisse sera dégagée.
Ce numéro de Grand Angle a été diffusé le 31 décembre 1988 sur France Culture.